Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la visite radiophonique de la rentrée de cette rentrée 2024-2025 de septembre avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Eh bien Nelly, on fait une première émission de rentrée sans Caro.
Et oui, Caro n'est pas là, mais par contre, pour la remplacer, j'ai trouvé 12 personnes qui vont pouvoir nous aider pour cette première visite de l'année. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, voilà, très peu de route encore aujourd'hui. Je me retrouve au sein du musée du Gévaudan. C'est un enregistrement qui se fait en plein été. En plein été, pourquoi ? Car nous sommes au sein du stage du Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan. Et là, pour cette première partie d'émission, j'ai 6 enfants avec moi. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, vous appelez comment ?
Gustave.
Lénaïque.
Paul.
Robin.
Sacha.
Solal.
Et alors, du coup, Nelly, tu n'interviens pas ?
Non, je ne vais pas intervenir, je vais leur laisser vous présenter cette visite radiophonique. Ils ont choisi 3 thèmes qu'on a abordés pendant le stage et ils vont vous les présenter.
Donc les enfants, quel monument vous allez nous présenter ?
Nous allons vous présenter le château du Boy dans cette première partie d'émission.
Solal, où se situe ce château ?
On est dans le Val d'Aunès, au village de la Nuéjol.
Donc Sacha, de quelle époque date ce château ?
Il date du Moyen-Âge, mais il a beaucoup changé de propriétaire et donc beaucoup changé lui aussi d'architecture. Aujourd'hui, il reflète plus le XVIIe siècle.
Alénaïk, à qui ce château appartenait-il à l'origine ?
Au baron du Tournel. C'était son château principal avec celui du Tournel.
Donc Gustave, quel âge il a ce château ?
Il a 700 ans.
Paul, en quoi ce château est-il construit ?
En calcaire et en tuf, ce sont les pierres qui étaient les plus proches. Alors Robin, est-ce que tu peux nous décrire le château ?
Donc, ce qui est surprenant dans ce château, c'est la cour intérieure qui se cache derrière la porte d'entrée. La cour, elle est carrée, elle s'ouvre sur des voûtes. En bas et au-dessus, il y a 14 fenêtres à croisées. Il y a des blasons sur les vitraux des fenêtres. Ces blasons représentent les différents propriétaires et les familles alliées. Et Adam, que Sacha, est-ce que ce château il avait d'autres fonctions ?
Oui, il a changé plusieurs fois de propriétaire et au début du XXe siècle, il appartenait aux Sœurs de la Providence qui installent ici un centre de vacances pour jeunes filles. Puis le château est transformé en préventorium pour lutter contre la tuberculose.
Et donc, Naïk, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce château ?
Oui, le château était richement décoré. Il avait un salon doré, Robin.
Oui, il y avait notamment un salon doré, entièrement orné de dorures, de peintures et bien plus. Eh bien, ce salon a quasiment entièrement disparu. Il serait, selon certaines sources, parti aux États-Unis, vendu par un de ses propriétaires.
On fait une pause musicale.
Jamais personne.
exquise, Marie-Thérèse, elle est obèse. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de sa tante Artémise. Édouard fume le cigare et Léonard porte une barbe noire. Léontine fait la cuisine, Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond.
Tiens, mais tu es par là, Béné, aussi, aujourd'hui ?
Oui, je suis par là, mais alors aujourd'hui, c'est pas moi qui travaille. Moi, aujourd'hui, je suis en vacances et j'ai fait appel à des petits stagiaires.
Bonjour, je m'appelle Ferdinand.
Je m'appelle Alessio.
Je m'appelle Ellie.
Je m'appelle Eulalie.
Je m'appelle Chloé.
Je m'appelle Nina.
Ferdinand, tu nous racontes une histoire ?
Le farfadet malicieux nous a raconté des histoires dans la ville de Mende. Il y a toujours une part de vérité et une part fausse dans les contes.
On va vous raconter l'histoire de Le Rouge le Malmont.
Ça se passe à l'époque des guerres de religion. Mende est contrôlé par le capitaine protestant Mathieu Merle.
Il a un très beau cheval et quand il galope dans la ville de Mende, ses sabots font des étincelles.
C'est un cheval blanc. Non loin de là, dans le village de Saint-Julien du Tournel, Le Rouge de Malmont, une personne qui aimait faire beaucoup de paris, fait un pari à la taverne un soir avec ses copains.
Il perd le pari et il doit du coup capturer le cheval blanc de Mathieu Merle.
Il se rend à Mende et au milieu du chemin, il réfléchit. Alors il se déguisa. Une manche jaune, une manche verte, une chemise grise, un pantalon avec une manche plus courte que l'autre, un soulier d'un côté et un sabot de l'autre.
Et donc, pendant 5 jours, il fait le fou, il court, il chante, il crie et il danse. Et du coup, les habitants de Mende, ils le prennent pour un fou. Mais vu qu'il fait de mal à personne, ils disent, c'est pas grave, on va le laisser.
Ensuite, il se rend à la fontaine du Griffon. Le palefrenier de Mathieu Merle arriva avec le cheval blanc qui marchait en faisant des étincelles.
Le Rouge de Malmont regardait son reflet dans la fontaine. Puis il demanda au palefrenier, tu veux couver mes œufs ? Et le palefrenier rigola et le Rouge de Malmont en profita pour sortir une dague rouillée de sous son panier et il tua le palefrenier.
Il retourne dans son village et il offre le cheval blanc de Mathieu Merle au baron du Tournel qui le récompensa avec beaucoup beaucoup d'or.
Merci pour ce conte, on passe à l'école de nos grands-parents. Alessio.
On est en septembre, c'est le mois de la rentrée. On vous propose de voyager dans le temps et de retourner en 1950 pour parler de l'école de nos grands-parents.
On va vous expliquer ce qui a changé entre l'école de nos grands-parents et celle d'aujourd'hui.
À l'époque, garçons et filles étaient séparés, l'école n'était pas mixte. Les écoliers portaient des blouses, ça permettait de ne pas se tacher parce qu'ils écrivaient avec des porte-plumes et de l'encre. Ils n'avaient pas de stylo bille.
Les maîtres et maîtresses étaient beaucoup plus sévères qu'aujourd'hui. Ils enseignaient surtout les mathématiques, le français et l'histoire de France. Ils faisaient beaucoup de dictées. Les garçons avaient aussi des cours de sport, alors que les filles avaient des cours de cuisine, de couture et de ménage.
C'est trop injuste !
On n'aurait pas aimé être à l'école en 1950.
Ils avaient des notes ?
Si les élèves avaient des bonnes notes,
il gagnait un bon point comme récompense. Par contre, s'il n'écoutait pas, il pouvait avoir des punitions comme des lignes à copier. Il pouvait aller aussi au coin ou se faire taper sur les doigts ou tirer les oreilles. Et celui qui avait les plus mauvaises notes de la classe était ridiculisé en portant le bonnet d'âne.
C'était trop dur. Est-ce qu'ils avaient un diplôme ?
À l'âge de 11 ans, les élèves passaient un examen très difficile, le certificat d'études.
Est-ce que les auditeurs veulent essayer un problème d'arithmétique ?
Exercice du certificat d'études, sucrer la pâte. Dans une boîte de 1 kg de sucre, les morceaux sont disposés en 3 couches superposées, constituées chacune par 4 rangées de 15 morceaux. Pour préparer un gâteau, une cuisinière doit incorporer à la pâte 200 g de sucre, mais elle ne dispose ni de sucre en poudre ni de balance. Combien de morceaux de sucre entier doit-elle utiliser ? La réponse dans la prochaine émission.
Vous pouvez nous présenter vos écoles ?
Je suis à l'école de Roufiac. Le groupe scolaire de Roufiac a été construit en 1987. Dans le nouveau quartier, l'ancienne école de Roufiac était au centre du village. Il y avait aussi une école au fond qui a été fermée en 1982.
Moi, je suis à l'école à Saint-Étienne du Val-d'Aunais. Elle est typique des écoles mérites du début du XXe siècle. Elle ressemble par exemple à celle de Bagnols-les-Bains.
Moi, je suis au groupe scolaire.
Il a été construit entre 1954 et 1961, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves.
Elle devient l'école Jean Bonigeol en 2011. Jean Bonigeol a été directeur de l'école, et c'est aussi un grand résistant.
Moi, je vais rentrer au collège Henri Bourillon.
Le collège Henri Bourillon est construit dans les années 60 en dessous du lycée Cheptal à Mende.
Il porte le nom d'Henri Bourillon, qui a été maire de Mende et un grand résistant durant la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a une actualité pour cette émission ?
Oui, c'est la Journée européenne du patrimoine.
C'est le 21 et 22 septembre. Un thème sur les chemins, réseaux et connexions.
Et le Pays d'Art et Histoire vous donne rendez-vous à Chasse-Radès.
Merci pour cette visite. Alessio, on va où le mois prochain ?
On risque de nouveau de se mouiller les pieds.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.